Retrouvez dès à présent une émission spéciale d'éducation aux médias avec les premières et terminales STMG du lycée Marie Curie de Strasbourg, manipulation et orientation de l'information chez les mineurs. Information en continu, manipulation ou orientation aux réseaux sociaux. Notre jeunesse, les futurs actifs et leaders de demain sont-ils suffisamment armés face à un flux continu d'informations, de news, de fake news ou de sensationnels ? Pour y voir un peu plus clair, nous recevons aujourd'hui les élèves de première et terminale du lycée Marie Curie de Strasbourg, accompagnés par leur professeur de marketing, M. Julien Hermann, qui ont travaillé sur la thématique manipulation et orientation de l'information chez les mineurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue sur les plateaux de RJS. Alors, j'ai avec moi pour cette première partie d'émission Alba, Alam et Enes. Vous avez travaillé donc sur un projet au long de cette année proposé par votre professeur de marketing, Monsieur Hermann, sur tout ce qui est en fait manipulation et orientation de l'information chez les mineurs. Alors, dans un premier temps, je m'adresse à vous, Monsieur Hermann. Présentez-nous un peu le projet. Comment le sujet a été défini et comment en fait les mots ont été choisis, parce que ce sont des mots qui sont lourds de sens et qui ont vraiment leur importance.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Ce projet-là, il a été mené dès le début en partenariat avec la radio judaïque à Strasbourg, donc avec la directrice Sybille Zegtreger qui est venue dès le début dans la classe. Et la première étape, ça a été de définir un sujet avec les élèves donc de première STMG. On est parti très rapidement sur tout ce qui était information, fake news, parce qu'apparemment c'est des thèmes qui intéressent beaucoup les élèves. Et on a fait une sorte de brainstorming qui nous a mené au sujet que vous avez défini donc au début, qui est manipulation et orientation de l'information chez les mineurs. Dans un deuxième temps, on a commencé, on a en tout cas défini chaque terme de ce sujet. On a commencé par la manipulation notamment. Alors à chaque fois, les élèves étaient invités à donner des mots-clés de que signifiait ce terme pour eux. Par exemple, pour manipulation, on a naïveté, intimidation, vice, lavage de cerveau, toxicité, séduction, pouvoir, soumission, conditionnement, illusion, victimisation, donc des mots qui sont quand même assez forts quand on les voit. Contrairement à l'orientation, où là on est plus sur des mots-clés comme trajectoire, intérêt, choix, opinion, stratégie, objectif ou encore valeur. L'information, quant à elle, on avait des mots-clés comme actualité, transmission, interprétation, comprendre, les médias, les tendances, rechercher, la mémoire aussi qui est ressortie, et puis après les réseaux sociaux, la communication et bien sûr le terme à la mode, fake news. Et enfin, sur le dernier terme, du sujet qui est mineur, là on avait plus le côté croissance, dépendance, immaturité, que les mineurs ne sont pas pleinement conscients, qu'ils sont encore en pleine construction, irresponsables, et donc inexpérimentés et manipulables. Mmh. Voilà ce qu'on a pu ressortir sur les différents thèmes du sujet.
Donc énormément de contenu, énormément de ressentis, énormément d'émotions, des mots très très forts aussi. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va écouter un extrait de la chaîne de psychologie Va te faire suivre.
S'il y a bien une chose qui se vend très bien à notre époque, c'est les émotions. Que ce soit par de la musique, de la lecture, de l'image, de l'information, de l'expérience de vie diverse et variée, l'être humain est attiré par ce qui va lui procurer des émotions.
Alors, on parle émotion.
Évidemment.
On est addict à l'émotion. Les médias, les réseaux sociaux, je pense que voilà, c'est là-dessus qu'on est tenu un peu. Alors, vous avez décidé dans un premier temps de mettre en place un questionnaire. Alors là, c'est effectivement plus les élèves de terminale pour un peu arriver à ça. Donc, qui peut me parler de ce questionnaire? Comment vous y avez travaillé et qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous vouliez en tirer surtout?
Pour commencer, le questionnaire avait déjà des bases faites du coup par la première STMG, mais par contre, notre professeur a proposé de nous mettre aussi pour l'améliorer. Du coup, on a essayé de trouver d'autres titres, d'autres questions qui pouvaient être plus intéressantes par rapport à la radio d'aujourd'hui. Par exemple, ça tournait beaucoup sur...
Tout ce qui était en fait les différents médias et tout ce qui était consommé pour l'information. Les terminales ont effectivement une autre approche parce que, alors vous disiez, hein, je suis professeur de marketing, mais finalement, les élèves ne font vraiment du marketing qu'en terminale STMG. En première, justement, et je repars quand même des émotions, et pourquoi il y a cet extrait au début sur les émotions, parce que en première STMG, on a tout un chapitre sur ces fameuses émotions, et normalement, les élèves les connaissent, les émotions primaires. Et j'insiste, c'est en tout début de première STMG. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent en première STMG, leur but, c'est comment on fait de l'argent, comment je veux être riche, comment je peux avoir du pouvoir. OK. Alors là, je leur dis tout de suite, attendez, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. D'accord ? Vous voulez être riche ? Très bien. Pourquoi pas ? Mais avant de vouloir être riche, il faut peut-être d'abord comprendre le monde dans lequel vous êtes. Et le monde dans lequel vous êtes, il est gouverné par les émotions. Donc, comprendre les 6 émotions primaires, qu'ils connaissent normalement par cœur, ils pourront peut-être même nous les citer après, on n'est pas en classe, hein, je plaisante, mais tout part de là. En tout cas, dans mon enseignement, tout part de là. Donc après, les terminales ayant plus d'expérience sur ça, ils étaient, je pense, plus à même de construire des questions. Après, leur démarche à eux, c'est vrai que moi, j'ai eu des super questions des terminales. Il faut leur poser la question, comment ils avaient une base, comme l'a dit NS, une base des premières. Ils sont allés bien plus dans la précision dans les questions posées, et ce qui a ramené les résultats après dont on va discuter.
Alam veut effectivement
comprendre. Du coup, comme l'a dit M. Herman, on avait des questions un peu plus générales des premières, et nous on a essayé de mettre des questions un peu plus précises pour vraiment avoir des réponses plus précises sur le sujet.
Il a été envoyé à combien de personnes, ce questionnaire ?
Alors, ce questionnaire, il a été envoyé à peu près 900 personnes, d'accord, ce qui représente la population totale du lycée Marie Curie, à savoir les élèves, mais aussi le personnel, ce qui représente à peu près 900 personnes. Et on a eu quand même, alors il y a eu 3 phases. Hein. Il y a une première phase, c'était uniquement les élèves de la classe. Pour voir un petit peu, on avait à peu près 70 réponses. Une deuxième phase, les professeurs, grâce à M. Wimmer Nejman, donc responsable culture du lycée Marie Curie, qui a diffusé le questionnaire auprès des professeurs. Donc on a à peu près une trentaine de professeurs qui ont répondu sur 70, ce qui est quand même très très bien. Et après, on a envoyé le questionnaire à l'ensemble du lycée, et on a eu au final 192 répondants en tout. Ce qui sur 900, sur une population de 900, est un échantillon complètement représentatif du lycée.
Qu'est-ce que ça vous a amené?
Par rapport à notre avis, nous, sur les questions, on voit qu'il y a des gens, qui ne s'informent pas du tout sur le même type de choses que nous, on s'informe, et du coup, ça nous surprend un petit peu de voir qu'il y a des gens, par exemple, ils aiment s'informer sur des sites internet, et il y en a d'autres qui préfèrent s'informer sur les réseaux sociaux, et c'est un petit peu...
Avec une vraie distinction réseaux sociaux et sites internet. Ouais. Ça pourrait être par exemple un quotidien qu'on trouve en version numérique. C'est une source d'information et on peut trouver en format brut, Loopsider, ce genre de choses, plutôt une autre source d'information. Et elles étaient distinguées, c'est ça ?
Alors oui, un peu, mais par rapport aux personnes qui ont répondu, je pensais déjà qu'il y allait avoir des différences par rapport à l'âge et par rapport aux réponses.
Mmh. D'accord, ok.
Moi, je n'ai pas été très étonné par rapport aux réponses, car c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regardait les jeunes, par exemple, Génération Z, etc., on s'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui touche à l'Internet, on va dire. Alors que quand on montait un peu plus de générations, les générations X, etc., ça s'informait plus sur le traditionnel, on va dire. Ouais. Par exemple, les journaux papier ou même les journaux en ligne, mais ça, c'était très exceptionnel. Très peu, et même, je crois, quasiment pas sur les réseaux sociaux, si je m'en rappelle bien. Et puis voilà.
Donc effectivement, globalement, ça allait dans votre sens, mais quand même avec des distinctions par tranche d'âge, par génération, effectivement, le X, le Y, le Z.
Pour donner quelques chiffres, hein, sur le questionnaire, on a un échantillon. Donc déjà, au niveau des répondants, on a 58,5% de femmes, 33,3% d'hommes, et quand même 5,1% qui ne se prononcent pas sur le genre. Mmh. C'est assez intéressant. Et sur les générations, on a donc 60% de génération Z. Donc quand on parle de génération Z, c'est les individus entre 12 et 20 ans à peu près. On a 25,1% de génération X. Donc ça, c'est plutôt entre 42 et 60 ans, 65 ans. Ceux-là, pourquoi ils sont très représentés là? Parce que c'est la population des professeurs de Marie Curie, hein, qui est majoritairement de cette génération. Et ça, par contre, c'est une surprise personnelle. On n'a que 11,3% de génération Y, donc les fameux millennials, qui ont répondu. Alors que pourtant, bon, c'est vrai que c'était, je m'attendais à plus de génération Y et Z. Sinon, au niveau du majeur-mineur, là, c'est égalité parfaite, 50% de majeurs, 50% de mineurs. Et dans le questionnaire aussi, on a posé la question, on a 26,7% hein, de parents qui ont répondu. Voilà.
Donc des parents qui se sentent concernés, et c'est un peu important quand même de le noter. Alors, il y a eu ce questionnaire avec les résultats qui en ont découlé. De là, il a été décidé, pour amener du concret finalement à l'expérience, d'aller à la rencontre des gens dans la rue et de leur poser la question. L'information est un peu orientée à destination des jeunes. Et là, effectivement aussi, on a eu toutes sortes de réponses, où notamment on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que les mineurs qui étaient orientés, que finalement tout le monde était orienté. Vous en retirez quoi de cette expérience ?
En fait, c'était super intéressant, je trouve. Et en fait, je trouve qu'il y avait une catégorie de personnes en fait, qui s'informaient sur le sujet. Il y en avait d'autres qui ne s'informaient pas plus que ça. Genre, ils n'avaient pas plus d'informations que ça. Mais ils ont quand même réussi à nous dire des choses intéressantes.
Les gens répondaient facilement. Est-ce qu'il y a une réponse qui vous a marqué en particulier, des moments qui vous ont marqué en particulier ? Oui, Alba ?
C'était une personne qui parlait de la désinformation par rapport au Covid.
Ouais.
Et ça m'avait marqué parce que ça lui a causé des dommages.
Alors pour les élèves de première, du coup, ils ont rencontré un artiste. Alors personnellement, je ne connais pas l'artiste Franglish. C'était dans quel cadre cette rencontre ?
Alors, c'était dans un cadre, avec une association parisienne qui s'appelle Banlieue School. D'ailleurs, je salue Mona Amirouche, qui est donc le contact qu'on a eu là-bas, et Monsieur le proviseur donc du lycée Marie Curie. C'est grâce à ces deux personnalités qu'on a pu faire venir Franglish. Très connu parmi les jeunes, hein. Je pense que ici vous le connaissez tous. Moi je le connaissais de nom parce que c'était en 2014, je crois, il avait sorti une démo. Je ne pensais pas qu'il avait percé autant. Mais effectivement, dès que vous parlez de Franglish à des jeunes de 14-18 ans, c'est très ciblé quand même, hein, parce qu'à partir de 18 ans, ils n'aiment plus. Donc 14-18, ouais. C'est effectivement. Alors, ce qui était intéressant avec Franglish, je voulais juste revenir là-dessus, c'est qu'il nous a parlé un petit peu de son expérience avec les réseaux sociaux. Les élèves donc, de première lui ont posé la question. Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux ? Il dit, c'est une obligation. J'y suis parce que si moi, en tant qu'artiste, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux, je n'existe pas, tout simplement.
Ouais.
Mais
au cœur du problème, quand même.
Exactement. Hein. Et comme il en parlait, il n'avait pas l'air de dire que c'était un vrai plaisir d'être sur les réseaux parce que ça implique que lui, il ne lit souvent pas seul lui-même ce qui se dit sur les réseaux parce que c'est extrêmement violent. On reparle des émotions ici. Alors, je veux dire, sur deux messages qui disent « Ouais, super ta musique », ben, il y en a quatre ou cinq qui disent « T'es nul, pourquoi toi ?» et pas d'autres. Enfin, c'est extrêmement violent. Hein. Tous les artistes, même toutes les stars, parlent un petit peu de ça. Donc l'expérience avec Franglish, en termes de, si on le lit avec cette émission, ils ont découvert qu'on peut être une star, avoir de l'argent, parce que bien sûr, les questions qui c'était d'abord autour de l'argent, et pas forcément être très heureux de ça, en tout cas.
D'accord, ok. On va écouter un deuxième extrait de la chaîne de psychologie, Va te faire suivre. Je trouve ça extraordinaire, le nom de cette chaîne, Va te faire suivre.
C'est aux jeunes, justement.
Aux jeunes, tout à fait, tout de suite.
Pour te donner envie.
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
Car oui, utiliser les émotions, c'est la méthode numéro 1 pour faire taire tes pensées et réflexions. Donc, te faire agir ou réagir, mais certainement pas analyser et comprendre une situation. La publicité utilise toujours une personne.
Donc, l'émotion, du moment que vous réagissez, je dirais que pour eux, 90% du travail était fait. Que vous réagissez mal ou bien, que ça fasse du mal ou pas, allez, on s'en fiche. On agit finalement sur une notion qui est très psychologique, très humaine, qui touche le cœur, mais les conséquences deviennent du coup, on n'est plus du tout dans la psychologie.
Tout à fait. On est dans la consommation au final. Hein. On est aujourd'hui même l'information subit ça et on va en reparler après encore dans l'émission. Finalement l'information subit les mêmes techniques marketing que le marché. Hein, parce que l'information est devenue un marché, voire beaucoup de choses sont devenues des marchés, il faudrait peut-être commencer par là. À partir du moment où il y a un marché, il y a du marketing derrière pour orienter, pour manipuler sur les émotions des individus qui veulent consommer sur ce marché.
On a demandé aux élèves de créer des spots et on vous expliquera après ce qu'il en est. On verra si nos auditeurs comprennent de quoi il s'agit.
Nespresso présente l'élixir de jeunesse, le café révolutionnaire qui stoppe le vieillissement. Chaque gorgée de cette boisson spéciale nourrit votre peau de l'intérieur, lui redonnant éclat et fermeté. Les rides s'atténuent, une peau plus lisse et lumineuse. Rejoignez le mouvement de la jeunesse éternelle avec l'élixir de jeunesse, disponible sur nespressoelixirdejeunesse.com. L'élixir de jeunesse, le raccourci vers la beauté éternelle, parce que la jeunesse est un état d'esprit.
Alors, info ou intox ?
Intox.
Est-ce que un spot comme ça, bien mixé, vous l'entendez de prime abord ? Est-ce que vous allez vous dire, c'est quoi ça ? Ou alors, pourquoi pas ? Ah, il y a un doute, effectivement. Pourquoi pas que le café pourrait faire du bien ? Hein, on prend des gélules de café pour tellement de choses. Pourquoi ça ne ralentirait pas le vieillissement ? Donc voilà. Donc on s'est amusé, effectivement, à demander à vos camarades d'écrire des textes sur ce qu'on appelle des fake spots de radio. On va attaquer le vif du sujet. L'information partout, tout le temps, l'ère de l'infobésité. Voilà, nouveau terme, effectivement. L'infobésité, c'est consommer de l'information tout le temps, à toutes les heures, n'importe comment, n'importe où. C'est vraiment se remplir. Alors, pour illustrer ça, dans un premier temps, on va écouter un extrait de Luc Bronner. Luc Bronner est directeur de la publication du Monde sur France Culture. Il a fait donc ce sujet, c'était le 21 novembre 2019, soit à peu près 6 mois avant le Covid. Et vous allez voir, c'est assez parlant.
Il faut s'adapter au monde qui nous entoure et aujourd'hui, nous tous, on va moins dans des kiosques acheter des journaux quand ils sont publiés, qu'il s'agisse du Monde, de Libération, du Figaro ou de titres dans d'autres pays.
Et bien, que c'était tous les confrères.
Oui, parce que on est sur des mécanismes qui sont comparables. Et on a accès à l'information et un potentiel d'accès à l'information qui est formidable. On peut lire le New York Times en étant à Paris, on peut lire le Monde en étant en Afrique, on peut lire le Figaro en étant en Russie. Je donne des exemples. Donc, il y a un potentiel d'accès à l'information qui correspond au potentiel extraordinaire d'Internet aujourd'hui, qui nous permet de toucher des lecteurs de façon très différente. Donc, dans un premier temps, c'est évidemment un gain démocratique, un gain en termes d'information. Toute la difficulté, je pense qu'on va en parler, c'est à quel moment l'info devient infobésité, c'est-à-dire devient de mauvaise qualité, intervient sur des doses qui sont parfois nocives. Et donc, à quel moment, nous, journalistes, nous, en position de rédacteur en chef et de directeur de la rédaction, on doit être capable de ralentir et de donner du temps long aux journalistes pour travailler différemment.
On y viendra, Dominique Cardon.
Alors, c'est très intéressant, hein, effectivement. Déjà, on en parlait. C'est pas nouveau, ce phénomène. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question à vous, élève de terminale, qui avez participé à ce projet. Si je vous dis, qu'est-ce qu'une information de valeur ? Vous me répondez quoi ?
Si je peux commencer, oui. Pour moi, une information de valeur, c'est une information où il y a une source sûre, une source plutôt stable, on va dire, où on voit que déjà, quand on lit l'information, ça peut nous paraître réel, ça peut nous paraître quelque chose de sensé. Et puis, si on va dans le fond, on peut voir une source qui nous prouve que c'est du réel.
Sinon, en fait, une information de valeur telle qu'elle est définie de manière scientifique et telle qu'on l'apprend en tout cas aux élèves en classe, c'est une information, effectivement, Alam l'avait au début, une information qui est pertinente, première chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, notamment, les élèves le disent eux-mêmes, sur des miniatures YouTube, ou même sur des ce qu'on appelle des titres qui sont racoleurs, on dit clickbait, hein, souvent des ou putaclic si vous voulez, voilà, encore une fois, mais c'est des clics qui sont pas forcément, après le contenu quand on va cliquer dessus n'est pas forcément pertinent. Deuxième, à moins qu'Alba veuille continuer là-dessus,
l'actualité accessible,
l'accessibilité, tout à fait, oui. Et le dernier, un des plus importants,
qualité.
Non, la qualité, c'est ce qui fait les quatre, justement. La fiabilité. Hein, donc, fiabilité, accessibilité, actualité et pertinence, c'est les quatre valeurs de l'information. Si on a ces quatre éléments qui sont réunis sur une information, on peut, c'est pas sûr à 100%, mais logiquement, on peut aller être sur une information de valeur à laquelle on peut faire confiance. Voilà, ça c'est pour l'aspect plus scientifique. On sait très bien que la science dans les faits, c'est pas toujours ça.
Alors moi, je m'adresse à vous trois. Vous êtes consommateurs d'informations. Dans votre vie, quelle place ça prend ?
Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'information prend beaucoup de place dans la vie des jeunes. Par exemple, le matin, dès qu'on se lève, on regarde notre téléphone, on a déjà de l'information. Quand on rentre sur les réseaux sociaux, on a déjà de l'information. Quand on sort dehors, on a aussi de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, surtout chez les jeunes, je pense que l'information prend une grosse partie de la vie. Et là, c'est vrai qu'on peut parler d'infobésité. Mmh. Pour ma part.
Et vous, jeune fille, hein ?
Moi, je pense pareil.
Ouais, c'est-à-dire, développe un peu, effectivement. Quand tu te lèves le matin, tu as déjà de l'information, mais c'est quel type d'information ? Est-ce que tu pourrais vivre sans, finalement ?
Oui, je pourrais vivre sans, parce que je pense pas que les informations que je reçois dans les réseaux sociaux ou autres soient vraies ou pertinentes.
Et ça t'apporte rien ?
Non, pas
ça
vraiment.
T'occupe ?
Non.
Non, non. Tu pourrais, donc, si demain, je te dis, je te coupe tout, tous tes réseaux sociaux, ça changera pas grand-chose à ta vie ?
Je pense que non.
Bah écoutez, c'est parfait. C'est une réponse pleine d'espoir. Oui, Adam.
Après, moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de comptes, en fait, qui sont dédiés à ça, donc à informer les mineurs et tout sur l'actualité. Après, je pense qu'on cherche pas forcément tout ça, savoir si l'information, elle est vraie ou pas. Genre, on regarde l'information, et si l'information, pour nous, elle est importante ou... On cherche à s'informer dessus, on va s'informer, mais je pense que si l'information, elle est juste... on va pas chercher plus à savoir que ça.
Est-ce que le fait qu'il y en ait trop, finalement, vous limite ? S'il y en avait moins, vous prendriez peut-être le temps d'aller vérifier ou pas ?
C'est possible. Après, ça dépend encore de l'information en elle-même, en fait.
D'accord. Monsieur Hamann, qui voulait, je pense, rajouter...
Oui, tout à fait. Alors moi, je vais juste rajouter juste des faits par rapport au questionnaire. Donc, qu'on a,
parce qu'il y a eu ce fameux questionnaire qui a fait quand même ressortir certaines choses.
Tout à fait. Hein. Donc on a déjà, première chose, sur les répondants, on a 70% des répondants qui s'informent souvent ou très souvent. Donc on peut détailler un peu, plus de 94% qui utilisent leur smartphone pour s'informer. Mm-hmm. Ils l'utilisent 94% plus d'une heure par jour, minimum, hein. Et on a 13% quand même qui l'utilisent plus de 10 heures par jour. 13%, ce qui est assez énorme. Ensuite, on avait aussi demandé par quels moyens les répondants s'informent. Et alors là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a en premier les pages sur les réseaux sociaux, en deuxième les chaînes sur les réseaux sociaux, en troisième les journaux en ligne, en quatrième la radio, en cinquième la télé et en sixième les journaux papier. Et si on regarde par contre de l'autre côté, parce qu'on a posé la question « Quels médias jugez-vous fiables ?» Eh bien, on a juste la liste inverse, quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'informent en priorité sur des médias qui, finalement, ne jugent pas fiables. C'est-à-dire que dans la fiabilité, on a en premier les journaux papier, qui sont considérés comme le plus fiable, qui sont en dernier, hein, dans ceux qui sont le plus suivis. En deuxième, les journaux en ligne. Donc, on voit que les journaux ont quand même encore cet aspect fiabilité et valeur de l'information. En troisième, la radio. Quatrième, la télévision. Et après, cinquième, sixième, les chaînes, puis les pages sur les réseaux sociaux. Donc, on a des médias très consommés, mais qui, en même temps, sont considérés comme pas fiables. D'un autre côté. Il y a déjà un vrai paradoxe, il y en aura d'autres, malheureusement.
Pour illustrer, et oui, vous voulez rajouter quelque chose
à... Et après, je pense que nous, en fait, c'est pas nous qui cherchons à s'informer, mais c'est plutôt les informations qui viennent à nous. Donc, en fait, on n'a pas forcément le choix, j'ai l'impression, de s'informer.
Alors, oui.
Moi, je suis très d'accord, et si je peux rajouter, c'est vrai que les informations viennent à nous. Comme je l'avais dit au début, quand on ouvre notre téléphone, les notifications, ça c'est de l'information. Ça commence dès qu'on allume notre téléphone, les informations viennent à nous. Quand on sort dehors, par exemple, les publicités qu'on voit au bord de l'autoroute, aux arrêts de bus, de tram, etc. Ça aussi c'est de l'information, c'est des publicités. Ça aussi ça vient à nous. C'est fait pour nous viser nous. C'est pas nous on vient à ça.
Alors, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, on a donc été à la rencontre des Strasbourgeois et je vous propose d'écouter un micro-trottoir avec quelques réponses tout à fait éloquentes.
Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent, c'est vrai. Et quand ils sont très petits, ils ne comprennent pas trop et ça les influence beaucoup.
ce sont eux qui vont contrôler le monde de demain. Et du coup, ce qui fait que les mineurs d'aujourd'hui doivent être beaucoup plus attentifs aux fausses informations qui, à l'époque, n'étaient pas forcément très récurrentes par rapport à maintenant. Surtout que maintenant, il y a beaucoup plus de contrôle sur tout ce que les médias disent et font pour avoir un contrôle sur la vie publique. Et justement, les mineurs vont être influencés par ça, mais aussi par leurs parents qui vont aussi écouter ces médias, qui vont les influencer justement.
Bah, des jeunes comme moi ou des adolescents se rendent compte que ce genre de réseaux sociaux influence les jeunes et on peut commencer à avoir notre propre avis critique sur certains sujets.
Voilà, donc là c'était un extrait qui effectivement illustre la pertinence de vos propos et surtout l'impact de cette information sur les mineurs. Nous terminons cette première partie. Je remercie Alba, Alam et Nest en terminale du lycée Curie d'avoir participé et je vous retrouve tout de suite après un nouveau fake jingle sur la deuxième partie, une information manipulée, les effets de l'information moderne sur les mineurs et les autres. À tout de suite.
Leclerc. C'est pas vrai, j'ai encore dépensé 200 euros pour de simples cours cette semaine. Le coût de la vie est trop cher.
200 euros, c'est énorme. Moi, depuis que j'ai trouvé la solution, je ne dépense que 100 euros.
Ah ouais ? Et c'est quoi ta solution ?
Bien, grâce à la semaine presto de chez Leclerc, jusqu'à moins 75% sur la plupart de mes produits préférés.
Si c'est comme ça, j'y vais illico presto.
Leclerc. Alors attention, illico presto, 75% de réduction sur vos courses. Ne vous précipitez pas chez Leclerc, c'est un fake spot. Une illustration, un texte écrit par les élèves de première et de terminale du lycée Curie à Strasbourg pour effectivement illustrer cette information manipulée. Est-ce qu'à travers un spot d'une grande enseigne, est-ce qu'on peut tout croire? Voilà encore une bonne question. Et l'information manipulée, ça va être le sujet de notre deuxième partie et on va s'attacher plus particulièrement aux effets de l'information moderne sur les mineurs et les autres. Alors, changement d'équipe, changement de plateau. Pour nous en parler, nous avons avec nous Safa, qui est donc la déléguée de première STMG, et Zarima et Elia, qui sont en terminale et qui nous rejoignent sur ce sujet. Alors, on va commencer par passer un extrait. Claude de Loupy, lors d'un TEDx, qui va déjà nous apporter un peu de matière.
En question. Mais imaginez que toutes les sources d'information que vous regardez soient polluées. Qu'en fait, leur objectif ne soit pas de vous informer, mais soit de vous diminuer, de vous limiter, de vous rapetisser, de vous renfermer sur vous-même.
Alors, question simple, vous sentez-vous concerné ? Avez-vous l'impression d'être manipulé, orienté ? Qu'on fait en sorte de vous que ces informations peuvent vous isoler ou au contraire vous faire aller vers des personnes que vous n'aviez pas prévu de fréquenter ou à qui parler.
Moi, ce que je ressens sur moi-même, c'est le fait que dès que j'ai eu les réseaux sociaux, j'ai pu parler à beaucoup de monde et je me suis peut-être pas vraiment fait influencer, mais j'ai vu comment les gens se faisaient influencer par les réseaux sociaux, que ce soit par les influenceuses ou par juste des personnes qui disaient leur opinion. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut pas vraiment dire ce qu'on pense par peur de faire polémique. Mmh. Du coup, ça nous enlève un peu la liberté d'expression.
Ça enlève la notion de débat et d'échange.
Pour moi, les réseaux sociaux, ça permet de beaucoup s'informer, pour commencer. Et c'est vrai que je peux rejoindre ma camarade, du coup, ce qu'elle avait dit. Il y a des moments où on n'a pas forcément trop le droit de s'exprimer par peur que les autres aient un avis négatif sur ce qu'on va dire. Mmh. Et c'est du coup arrivé à plusieurs influenceurs qui propageaient des idées et qui ont été, on va dire, détestés par la suite à cause de ça. Parce que tout le monde n'a pas la même opinion qu'eux.
Mais il y a bien moyen de les vérifier, ces informations.
Mais même en s'informant, on ne sait pas si c'est fiable.
Donc on en est à un point où on est tellement abreuvé, noyé sous un flot d'informations qu'on n'arrive même plus en allant chercher une source fiable, à se demander si cette source est si fiable que ça. Mmh. Vous en êtes en fait à ce point. Alors c'est quoi la parade? Parce que vous avez conscience qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Mmh. Donc c'est quoi votre parade à vous?
Déjà avec Monsieur Herman, en classe, on avait entamé plusieurs sujets justement qui avaient fait un peu polémique sur les réseaux. On en avait parlé et on a essayé de vérifier les sources, etc. Pour en fait chacun a donné son avis. Mmh. Puis après, on a finalisé, on a essayé de conclure avec Monsieur Herman et on a fait des sortes de recherches pour, on va dire, conclure un peu l'idée générale, enfin, de la source, même si ça rejoignait un peu les tweets, etc. Mais, enfin.
Oui, souvent, si on voit une information, on prend toutes les sources d'informations. Mm-hmm. Enfin, c'est ce qui est appris, hein, c'est la façon dont c'est appris en classe. C'est que là qu'on arrive à voir. Finalement, en recoupant toutes les sources, avoir l'information telle qu'elle est. Mais ça prend du temps. Mmh, oui. Alors, ils sont censés ils sont censés le faire en classe, hein, oui. pour des projets en classe. Mmh. D'accord, bon, là, il y a le temps, il y a la note, il y a l'examen au final. Mais en fait, on devrait le faire au quotidien pour toute information, parce que comme l'ont très bien dit, hein, les élèves, ils sont abreuvés 24 heures sur 24 d'informations. Je vais peut-être juste revenir sur les résultats donc, du questionnaire. Déjà, première chose, ça c'est quantitatif, on a 75,4% des personnes interrogées qui pensent que la qualité de l'information n'est pas l'objectif principal des médias. Ce qui est quand même une grosse, grosse majorité. Mmh. Et par rapport à ça, on invitait donc les répondants à nous répondre de manière qualitative. Et on a des choses très intéressantes. Donc la fiabilité, par exemple, dépend du média. Les médias appartiennent à des milliardaires ou à des actionnaires et donc ne sont pas neutres. Le but est de créer du profit, maximiser les intérêts politiques et économiques du pays dans lesquels les médias sont diffusés. Ils hyperbolisent la réalité. Avoir une information de qualité vérifiée, réfléchie est nécessaire pour contrebalancer l'information immédiate et décontextualisée. Enfin, on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. On divague souvent vers des informations nuisibles. Et enfin, deux derniers témoignages, le sensationnel, on a beaucoup de témoignages sur le sensationnel, hein, donc on revient sur les émotions du début. Le sensationnel laisse souvent la place à l'information, la véritable information, et même ce témoignage, on parle de Schreierspirale en allemand, hein, spirale du cri tout le temps. Plus on fait de bruit, et ben plus on va nous écouter. Et pour conclure, j'avais ce beau témoignage, encore une fois, le succès d'un média reste la conséquence de la confiance qu'il suscite. Je trouve que ça résume bien l'idée, en tout cas sur cette manipulation.
Alors, c'est un questionnaire avec des réponses. En fait, le questionnaire est très bien fait parce qu'on est vraiment sur ce qu'on appelle le picture of. C'est vraiment une photo à l'instant T. Il y a aussi ce sentiment qu'il ne faut pas dire les choses qu'on pense parce que voilà, c'est le gros gros problème actuellement. Moi j'ai envie de vous poser une question. Du coup, toutes ces informations là, vous êtes à la fois consommateurs et victimes, vous êtes aussi des victimes de cette désinformation. Il n'y a pas un problème de déontologie là, il n'y a pas quelque chose à refaire dans le système de toutes ces informations là qu'on vous envoie.
Je pense qu'il est vraiment important de sensibiliser les plus jeunes, les adolescents sur les effets néfastes des médias ou même sur le fait que toutes les informations qui passent, elles sont pas vraies. Et si les établissements scolaires ou la famille, la société fait ça, il y aura beaucoup moins de risques sur les personnes qui... Surtout sur les jeunes, en fait.
Vous-même, vous avez dû, on a dû vous dire au fur et à mesure, parce que vous êtes un peu la génération qui a grandi avec l'information dans la poche, l'information dans le téléphone. Je pense qu'au fur et à mesure, vos parents, vos professeurs, votre entourage, vous ont dit au fur et à mesure, attention, tout n'est pas bon à prendre. Et vous en avez conscience maintenant, vous commencez à avoir du recul par rapport à tout ça. Vous sentez que vous commencez à maîtriser un peu, vous devenez votre propre acteur par rapport à la lecture de toutes ces informations que vous recevez?
En vrai, au fil des années, je me suis personnellement rendu compte que, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, vu que maintenant je comprends les risques et les dangers sur Internet, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai pas appris ça il y a plusieurs années, en fait? Parce que il y a très longtemps, quand même, j'étais hyper influençable, contrairement à maintenant. Et c'est dommage que les mineurs, ou vraiment juste les jeunes d'aujourd'hui, en fait... n'apprennent pas plus tôt, parce que j'aurais voulu personnellement l'apprendre plus tôt.
Alors, c'est vrai que on a été donc à la rencontre des Strasbourgeois, on a fait des micro-trottoirs en posant les diverses questions. Le Covid revient beaucoup dans beaucoup de témoignages. On sent qu'il y a eu un avant et un après Covid sur cette manipulation et l'orientation de l'information chez les mineurs. On va écouter quelques extraits.
Il y a une part d'humain dans les médias. Donc, en règle générale, c'est fiable. Sauf quand il y a une erreur humaine.
Alors, moi, comme je suis en droit, je suis obligée de m'informer avec des trucs genre Le Monde et tout ça, genre des journaux, et sinon Hugo Décrypte. Il y a de la vraie information, et il y a des parties qui ont été changées pour pouvoir coller, par exemple, avec l'économie, le droit, etc., pour pouvoir justifier des choix politiques plus que de la vérité, je pense.
Bah, personnellement, en fait, c'est pas que je vais vérifier l'information, c'est juste que je vais pas puiser mes informations sur les réseaux sociaux, plutôt sur des sites internet qui sont reconnus. Ça va vraiment dépendre. En fait, souvent, j'ai un fil d'actualité d'information et vu qu'à l'école, on a appris comment reconnaître un site qui est reconnu et qui est fiable, je vais voir directement si le site est fiable ou pas et je vais retenir ou pas l'information. Par exemple, lors de la crise du Covid, parfois, il y a certaines personnes qui disaient des choses sur le vaccin qui n'étaient pas vérifiées du tout. Et moi, ayant mes parents médecins, je savais vraiment de quoi était capable le vaccin, etc. Et c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qui disaient des choses qui n'étaient pas du tout vraies et que c'était un peu du complotisme carrément.
Et voilà, le vaccin, le complotisme, toutes ces notions reviennent. Alors j'imagine que vous les mineurs, hein, vous avez reçu beaucoup de choses, tout et son contraire, et que ça n'a pas dû être évident. J'aimerais qu'on écoute maintenant avoir un point de vue scientifique. Alors là, c'est un extrait d'une émission sur Arte, et on échangera sur ce qu'est la dopamine et ses effets avec focus sur les mineurs.
Il y a 3 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. On l'utilise au bureau, à la maison, en famille ou en forêt. On ne pourrait plus s'en passer. Pourtant, cet objet est arrivé dans nos vies il n'y a pas si longtemps.
Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is.
Le smartphone, un objet formidable. Mais c'est quand on le perd, on l'oublie, on l'endommage, ou qu'il n'y a juste plus de batterie, que l'on réalise qu'il y a peut-être un problème. Car le smartphone, toujours connecté et toujours disponible, est rempli d'applications sociales, comme WhatsApp pour communiquer, TikTok pour se faire les cuisses, Facebook pour s'informer, LinkedIn pour afficher sa réussite, Instagram pour booster son ego, ou même Tinder pour vivre de nouvelles aventures. Pourquoi les consultons-nous de manière si compulsive? 1, 2, 3, go! Dans le monde entier, des scientifiques multiplient les études pour comprendre l'influence des réseaux sociaux sur nos comportements.
Plus les gens reçoivent de likes, plus ils sont actifs. Et inversement.
Car les likes, les j'aime ou les cœurs sont considérés comme des récompenses court-circuitant le cerveau des utilisateurs.
Les applications ont donc très probablement un impact sur le développement du système lié à l'attention et au contrôle cognitif.
Ce qui peut influer sur la santé mentale.
Les réseaux sociaux ont tendance à montrer plutôt des formes de réussite qui peuvent petit à petit être délétères dans la constitution de l'estime de soi.
Un phénomène renforcé par les algorithmes.
Notre analyse a révélé que les images montrant de la peau nue avaient une probabilité nettement plus élevée d'apparaître dans les fils d'actualité.
Derrière nos comportements sur les réseaux sociaux se cache une molécule devenue star de la tech.
That feedback, chemically speaking, is the release of dopamine in your brain.
Bienvenue dans le monde de la dopamine.
Et voilà, c'est la dopamine par-ci, la dopamine par-là, qui vous rend addict à vos portables et à ce qu'ils contiennent. Est-ce que vous êtes addict à vos portables?
Non.
Pas du tout?
Non, pas vraiment.
Non.
Moi, je trouve que je suis pas tellement.
Est-ce que vous l'étiez? Vous avez pris du recul?
Ouais. Au début, j'étais toujours scotchée à mon téléphone.
Ouais.
En fait, j'étais trop enfermée chez moi. Je me disais que si j'avais pas mon téléphone ou juste ma connexion Internet, j'étais trop... Genre, je pouvais pas vivre sans ça, en fait. Mm-hmm. Et en prenant du recul, heureusement que je me suis éloignée de ça, au final. Mm.
Safa, est-ce que quand il n'y a plus de batterie, c'est la panique? Quand il n'y a plus de réseau?
Alors moi, c'est un peu pareil. À un moment,
je vais dire, on va dire c'était au collège, j'étais vraiment trop sur mon téléphone. C'est-à-dire, quand mes parents me le confisquaient, bah, je pétais un câble, on va dire. Uh-huh. Et bah, justement, je pense que c'est en grandissant qu'on comprend, en fait. Et justement, une fois que j'ai grandi, bah, j'ai appris à m'éloigner. Et je peux vous dire que ça fait un moment qu'on ne m'a pas confisqué mon téléphone.
Ah ouais, ouais. Donc, plus, en fait, vous n'êtes pas... C'est pas si important que ça, le téléphone, finalement.
Oui, voilà.
Ouais. Vous n'êtes pas... Vous n'avez pas des comptes Instagram ou autre, ou quand vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de likes, tu dis, ah, pourquoi Non, c'est fini,
non.
Tout ça.
Non, ouais,
c'est... Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, alors.
Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décroché, ben ça,
oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, en fait, je pense que pour moi, c'est plus les fréquentations. Enfin, au collège, c'est vrai que mes fréquentations n'étaient pas les meilleures. Mais après, une fois que j'ai grandi, j'ai su m'éloigner de certaines personnes et évoluer, on va dire, de mon côté, avec mes parents, etc. Et bah, j'ai mûri, quoi. Mmh. Et voilà. Je pense que c'est surtout ça.
D'accord. Bah, écoutez, c'est sur ces belles paroles d'espoir et plutôt positives qu'on va conclure cette deuxième partie.
Juste peut-être oui. rapporter quelques justement, parce que c'est important pour les mineurs. On a quelques résultats aussi qualitatifs typiquement sur les mineurs à la question « Pensez-vous que les réseaux sociaux soient nocifs pour les mineurs ?» Et ce qu'on a eu dans le questionnaire, pareil, beaucoup de choses intéressantes. Alors, on a bien sûr des réactions très, très viscérales, sur les lobotomies et les coupes de toute réalité. Les plus jeunes ont le besoin de se développer humainement, donc de développer des relations interpersonnelles, le respect de la hiérarchie et de l'autre, et doivent donc développer un esprit critique avant de se retrouver engloutis par les masses de données des réseaux sociaux. Le plus nocif serait, selon une personne, l'écran lui-même, pas les réseaux sociaux, mais l'écran. Mais sinon, on a aussi des avis un peu plus nuancés et qui sont intéressants. Hein. Les réseaux sociaux font partie intégrante du monde actuel. Couper les mineurs des réseaux sociaux, cela serait comme ne pas les emmener à l'école, même si la personne reconnaît la nocivité. Et enfin, une partie des jeunes reste très influençable, mais les réseaux sociaux peuvent justement aider le jeune à se construire et à l'aider dans sa manière d'être et d'agir face au monde. Développer un talent, rejoindre une communauté, découvrir des choses qu'il n'aurait pas pensé. Donc il y a aussi ce bon côté hein, des réseaux sociaux. Alors c'est rigolo parce que dès qu'on parle de médias et d'informations, on va tout de suite sur les réseaux sociaux de manière presque mécanique. Alors qu'on oublie qu'il y a d'autres médias, mais oui, les réseaux ressortent surtout par rapport à ça, pour la manipulation en tout cas.
Merci à vous trois d'avoir participé à cette deuxième partie. Et nous allons enchaîner avec la dernière partie de l'émission avec un débat et une curiosité.
C'est monstrueux. Elle possède à peu près la taille d'un ours et sa peau brille un peu comme du cuir mouillé. Et son visage, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un visage, mesdames, messieurs, tant il est effrayant. On y voit deux yeux noirs qui vous hypnotisent comme ceux d'un serpent. Quant à la bouche, elle ressemble plutôt à une sorte de bec en forme de V. Et il en dégouline une sorte de barbe.
Mais c'est quoi donc? Quel est donc ce monstre dont on parle? Orson Welles a créé un canular radiophonique dans les années 40 où il a fait croire à une invasion de Martiens aux États-Unis. Et via la radio, il a créé une panique sans précédent. Les gens ont vraiment cru que des Martiens attaquaient la ville de New York. Donc le phénomène de manipulation et d'orientation de l'information, finalement, n'est pas si nouveau. Sauf que maintenant, effectivement, vous avez les réseaux sociaux dans votre téléphone, dans votre poche. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une chance ou pas, les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un danger ou au contraire une désopportunité? Sur le plateau, nous avons rejoint Enes, Alam, Najat et Marie-Élise, à la fois première et terminale STMG du lycée Marie Curie. Alors, chance ou danger? De quoi parle-t-on? Qui veut commencer? Enes.
Alors, pour moi, les réseaux sociaux, c'est de la chance et le danger en même temps. Donc, je vais m'expliquer. Alors, pour parler de chance, on peut parler par rapport socialement. Par exemple, socialement, c'est vrai que aujourd'hui, quand on est chez nous, on peut quand même parler à des amis, on peut avoir du contact social sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter, etc. On peut donner son avis sur plusieurs choses, sur des sujets lancés. Voilà, ça je pense que c'est une des plus grandes chances des réseaux sociaux. Après, le danger, oui, bien sûr, il existe de nombreux dangers. Par exemple, la désinformation, comme on l'a vu avant, où le monsieur a fait un canular par rapport aux Martiens, mais aussi on peut... Enfin, ça m'a fait aussi rappeler le calendrier Maya en 2012. Ils avaient... le calendrier Maya, je crois, en 2012, avait annoncé un événement... une sorte de fin du monde.
Une sorte de fin du monde, tout à fait.
Que ouais. Aux réseaux sociaux, ça avait parlé, tout le monde pensait que c'était la fin du monde, il y avait eu enfin des... c'était n'importe quoi un peu, voilà.
Alors, on va aller plus en avant. Donc
juste, je veux juste rajouter quelque chose. C'est une partie très importante parce que là, on fait le lien, la fameuse irréputation. Quand je vous parle de irréputation, ça parle aux élèves autour de la salle, autour du plateau, parce qu'ils ont vu cette notion. Aujourd'hui, c'est ça que les jeunes, les moins jeunes, visent. Ils visent leur irréputation. Dès qu'on met « i » devant quelque chose, un « e », ça veut dire « en ligne ». Donc, la réputation en ligne, qui découle de la « i-communication », qui découle elle-même. Enfin, on peut mettre des « i » devant tout aujourd'hui. Mmh. Mais c'est vraiment ça, la irréputation sur laquelle on va s'attacher sur cette partie.
Et d'ailleurs, on va avoir tout de suite une définition qui a été donnée lors de l'introduction d'une formation. Qui explique comment avoir un compte populaire sur les réseaux. Et oui, ça s'apprend.
Les réseaux sociaux, c'est bien plus compliqué que ce que la plupart des gens pensent. Il ne s'agit pas juste de poster quelques photos, faire une ou deux stories à droite et à gauche et attendre magiquement des likes, des abonnés et des partages. Chaque réseau social est unique, chaque réseau social a ses codes et nécessite certaines appétences. On ne développe pas un compte Instagram comme on développe une chaîne YouTube, on ne développe pas une chaîne YouTube comme on développe un podcast, une liste email ou encore son compte LinkedIn. Et c'est cette incompréhension générale des plateformes et des réseaux sociaux qui pousse plein de personnes à bosser des semaines, des mois, parfois des années, à essayer de développer un compte sans forcément y parvenir.
Bah dites-moi, c'est très intéressant, c'est très complet. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, si je peux parler, oui, pour moi, les réputations aujourd'hui, c'est... pour moi, les réputations, c'est comme une deuxième identité qu'on a. Mmh. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on ne veut pas tout le temps partager les... Enfin, on veut partager tout le temps les bonnes choses qu'on fait et jamais les mauvaises choses qu'on fait. Voilà, pour nous montrer une bonne réputation de nous, qu'est-ce qu'on fait aussi dans la vraie vie, on va dire. Mm-hmm. Oui, pour moi, les réputations, c'est comme une deuxième identité qu'on a maintenant.
Qu'est-ce que vous entendez par les mauvaises choses? Parce que est-ce que ça veut dire on montre que la vie est belle? On ne montre pas les aspects noirs de notre vie ou on est irréprochable, quoi qu'il arrive?
Alors, oui, moi, je pense qu'on montre qu'on est irréprochable. Par exemple, imaginons quelqu'un qui fume ou qui boit, il ne va pas forcément le montrer sur les réseaux sociaux. Alors bon, aujourd'hui, ça se fait un peu plus pour montrer une sorte de style, mais c'est vrai que généralement, on ne dit pas aux gens qu'on fume, on boit, qu'on sort en boîte, enfin, toutes ces... Ouais. Bah, c'est pas des mauvaises choses, mais entre guillemets, mauvaises choses qui sont mal vues par les autres.
Effectivement, comme il dit, les réputations, c'est assez important parce que c'est une deuxième identité et ça a beaucoup d'impact, par exemple, sur notre vie professionnelle. Par exemple, si demain on cherche du travail, l'employeur il va beaucoup chercher des informations sur Internet. C'est-à-dire, par exemple, s'il tombe sur un poste de nous un peu, on va dire, farfelu, dans le sens où... Ou par exemple, on est en boîte, on est dans des positions, dans des situations pas très vues aux yeux de l'entreprise. Ça va jouer sur notre CV, notre entretien tout simplement. Mmh. Et on va perdre des chances d'être employé. Et puis, bref, c'est important d'avoir une bonne image sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour éviter d'avoir des problèmes dans notre vie professionnelle ou même sociale, maritale, etc.
Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux?
Tout le monde le voit.
Et en fait, ça reste, les traces restent. Voilà, on ne peut pas, tout ce qui va sur les réseaux reste, même quelque part, dans du dark web, dans tout ce que vous voulez. Ouais, en fait, c'est une empreinte. C'est une empreinte beaucoup plus importante, finalement. Votre deuxième identité, au final, surpasse la première, ce serait ça?
En fait, généralement, les gens, ils ont plus tendance à retenir le mauvais que le bon. Ça veut dire qu'on a beau faire 100 choses qui soient bonnes, du coup. Si on fait une chose qui ne va pas, les gens, ils vont plus retenir cette chose-là que le reste.
Pourquoi c'est le mauvais qui nous attire? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit?
Moi, je pense que pourquoi le mauvais nous attire, c'est... je pense que quand on regarde sur les réseaux sociaux, enfin sur principalement, on voit tout le temps les gens faire la même chose, par exemple de bonnes actions, etc. Et quand on voit de mauvaises choses, c'est pas quelque chose de commun. Donc tout le monde se, jette sur ça. Par exemple, on peut prendre des exemples de YouTubeurs qui ont fait tout le temps de bien, qui ont fait tout le temps sourire des gens, etc. Et dès qu'il y a eu une polémique sur eux,
une faute et tout s'écroule.
Ouais, une faute et tout s'écroule. Ouais. Et c'est de l'harcèlement, c'est du cyberharcèlement pendant des années et des années. Et ça, en fait, ça se retire plus.
C'est un monde sans pitié, finalement.
Mais exactement.
On n'a pas le droit à l'erreur sur les réseaux.
Exactement.
Oui, Marie-Alice.
En fait, les gens, ils aiment beaucoup retenir le négatif parce que ça fait beaucoup parler, le bad buzz. Ça fait beaucoup parler, ça attire les gens. Du coup, forcément, ils vont plus être attirés vers le mal que vers le bien. Mm-hmm. Parce que le bien, bon, voilà, on voit souvent du bien sur les réseaux sociaux, c'est vu et revu. Alors que le mal, c'est une histoire, c'est une polémique, il y a des arguments, il y a de tout. Du coup, forcément, ça attire les gens. Mm-hmm. Et c'est ce qu'ils préfèrent.
Ouais.
Et généralement, y a des gens qui sont pas connus forcément et donc grâce à ce bad buzz ou grâce à la chose négative qu'ils ont faite, les gens ils ont plus ils le connaissent quoi. Le bad buzz en gros il a un peu fonctionné, où il y en a qui font exprès en fait justement de créer du bad buzz pour se faire connaître, et ça marche et ils ont plus de notoriété, plus de
donc un signe que voilà aussi. Et donc il y a notre société va pas bien alors. Si on, finalement, ce qui nous fait avancer, ce qui nous réjouit, ce sont les choses un peu dark. Ouais. Vous réagissez comment maintenant, avec le recul? Alors, est-ce que votre irréputation, ok, vous y faites attention, mais c'est pas, enfin, pas vous en rendre malade. Donc, comment finalement, on peut réagir et filouter un peu? Ce serait quoi les solutions?
Les solutions seraient soit de faire un deuxième compte qui est privé et que nous mettons des personnes que nous connaissons, que nous avons assez confiance, ou alors des solutions un peu plus radicales, on va dire, plus du tout commenter, plus rien dire en fait. Juste scroller, liker des posts et aller, si on peut mettre un commentaire ou un tweet, dire quelque chose où on sait que ça ne va pas faire pour les polémiques, où ça ne va pas nous suivre toute notre année, voilà, comme ça. Moi, je pense que c'est des solutions que j'utilise, d'ailleurs.
C'est pas une restriction de liberté ?
Une restriction de liberté qu'on s'impose à nous-mêmes, oui, mais pas... C'est pas
une... Ou que la société vous impose ?
Les deux.
Ouais, les deux, quand même.
Les deux. Ouais, c'est pas facile.
Ouais, c'est pas facile.
C'est pas facile. Et en tant que mineur, en plus, peut-être que votre marge de manœuvre, pour l'instant... N'est pas aussi développée, importante. Peut-être que beaucoup de choses, pour l'instant, ne sont pas à votre disposition, ou que vous n'avez pas forcément la maturité ou le recul, en tout cas, pour pouvoir faire avec. Est-ce que finalement, toute cette étude que vous avez fait sur des informations, vous êtes la cible de la désinformation, de l'orientation. Qu'est-ce que ça vous a amené, vous, toute cette réflexion, tout ce travail?
Moi, par exemple, j'essaye de dire à mon petit frère de faire attention à ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Par exemple, lui, il est beaucoup sur YouTube et il a tendance à beaucoup commenter. Et je lui dis toujours de faire attention, parce que ce qu'il commente, peut-être pour lui, il le commente une fois et puis c'est bon, sauf qu'on peut le retrouver par rapport à ça. Et il peut se créer des problèmes. Ou par exemple, une personne qui a mal pris son commentaire peut signaler son compte. Mmh. Et c'est lui qui finit perdant dans tous les cas. Et il faut qu'il apprenne petit à petit à faire attention à ce qu'il fait, parce qu'il va grandir. Et un jour, il sera confronté à ce genre de choses qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Et ça va juste l'impacter. Mmh. Et tout le monde devrait faire ça juste pour son propre bien personnel et pour éviter d'avoir des problèmes.
Najat, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est une vaste question, hein, c'est compliqué.
Il faut faire attention à ce qu'on fait sur Internet, parce qu'on est toujours surveillé.
Mais surveillé par qui?
Par...
Pose des questions simples. Hein.
Surveillé par peut-être nos proches qui veulent du vice contre nous, des choses comme ça.
Oui.
Ouais. Pas que.
Puis il y a des règles aussi à suivre. Hein, c'est vrai que il y a de plus en plus de règles qui ont été mises en place, voilà, par l'État. Certaines choses sont punies maintenant, pénalement. On peut plus. En fait, cette notion où on arrivait finalement à déposer un commentaire et on continue notre vie, la personne qui reçoit ce commentaire, lui, c'est sa vie. Donc c'est. Est-ce que vous pensez que les mentalités sont en train d'évoluer ou il y a encore du boulot?
Il y a encore du boulot.
Ouais. Et vous, par rapport à cette expérience de radio, de questionnaire, vous avez été à la rencontre des gens. Qu'est-ce que vous en tirez et comment vous pourriez aider?
En fait, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils sont influencés et ils cherchent
à sortir de cette influence, on va dire.
Oui.
Et ils trouvent de l'aide pour ça?
Oui.
Est-ce qu'il y a assez de moyens, finalement?
Oui.
Ouais.
Par exemple, ils diminuent leur utilisation sur les réseaux sociaux, ils postent moins, ils font attention à ce qu'ils postent, à ce qu'ils commentent et tout ça.
D'accord. Ok. Ouais. Monsieur Herman, une conclusion?
Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'on passe en fait un dernier extrait par rapport à, on va dire... la réalité hein, des réseaux sociaux, la réalité économique qu'il y a derrière, c'est un extrait, alors c'est vrai que ça pique un petit peu, c'est un extrait d'un intervenant qui s'appelle Paco Mtilman, qui a cherché beaucoup sur la question et qui à mon avis a une bonne approche, mais qui peut être parfois un petit peu trop scientifique, je pense.
Quand on va sur Facebook, on ne s'intéresse évidemment pas seulement à ce que les autres publient. On s'intéresse à ce que les autres pensent de ce que nous publions. Publier un texte sur Facebook, ce n'est pas simplement publier un texte. Publier un texte sur Facebook, c'est le soumettre à des likes et des partages. Et l'existence même de ces likes et de ces partages rend impossible d'ignorer la question de la popularité de nos publications sur la plateforme. Elle nous transforme de facto en personnalité publique. Facebook ne nous transforme pas seulement en personnes intéressées. Facebook nous transforme en stars narcissiques. Facebook a compensé la décrépitude des organes de presse traditionnels en faisant de nous les collaborateurs du plus grand média du monde. Mais en contrepartie, il nous a mis en concurrence, il nous a divisés. On s'est mis à regarder le nombre de likes que recevaient nos amis et on a commencé à faire ce qui était en notre pouvoir pour en obtenir autant. Une petite chanson, une remarque humoristique, une photo mignonne. Quand on publie sur Facebook, on est toujours, consciemment ou non, en train de faire sa propre publicité. Et on finit par y faire ce que font toutes les personnes sensibles à la question de la popularité, du fan service.
Oui, comme vous disiez, effectivement. Bah,
C'est
une technique marketing sur laquelle on va méditer. Alors, ce n'est pas très, très gai, mais en tout cas, par rapport aux nombreux témoignages qu'on a eus aujourd'hui, moi, je trouve que tous ces jeunes, finalement, ont de la jugeote, hein, ont pris du recul, savent ce qui est bon et moins bon pour eux. Et je pense que c'est en partie grâce aux professeurs aussi, hein, le personnel encadrant, le personnel qui travaille auprès de vous.
Commun.
Et voilà, vous avez vraiment des adultes qui sont là, qui vraiment pensent à vous protéger. Ce sont des notions qui sont tellement récentes que personne n'est vraiment éduqué pour comprendre la portée et la dimension qui nous dépasse vraiment à un point inimaginable.
Mais le problème, c'est que ce malaise psychologique, il rejoint des intérêts économiques. Et quand l'économie et la santé des êtres humains ne sont plus coordonnées, et bien c'est là, je pense, que les professeurs, y compris d'économie-gestion, ont leur rôle à jouer, notamment en STMG, pour se servir du programme et expliquer aux élèves cette partie, particulièrement sur l'information, pourquoi c'est important. Et pourquoi, manipuler, ils l'apprennent en terminale en marketing, mais c'est mieux s'ils apprennent à manipuler du bon côté plutôt que du mauvais. Et en tout cas, c'est ce vers quoi j'essaye de... Parce qu'ils apprennent beaucoup de choses en marketing et c'est très dangereux. Hein. Je veux dire, manipuler le marketing au lycée, moi, le marketing, je l'ai appris à partir de ma licence. J'ai jamais eu de marketing au lycée. La section STMG a permis ça, c'est très bien. Mais il faut, attention, parce que c'est quelque chose de très lourd, il faut savoir aussi le manier. Et quand il est pas trop mal manié, ben les élèves arrivent à changer d'état d'esprit et peut-être qu'ils vont utiliser la puissance du marketing pour faire des bonnes choses, pour communiquer des messages positifs et puis pour faire face tout simplement aux enjeux de demain. De toute façon, on n'aura pas le choix.
Bah écoutez, c'est les enjeux de demain. Hein. Vous avez tous les outils en tout cas. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander des précisions. En tout cas, les chances sont de votre côté. La balle est dans votre camp, comme on dit maintenant. Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale. Je rappelle, manipulation et orientation de l'information chez les mineurs. Première et terminale STMG du lycée Marie Curie, accompagnée de leur professeur Julien Herman, professeur entre autres de marketing. Merci à tous pour votre attention. Une émission très très riche que vous pourrez retrouver en podcast sur radiojudaica@strasbourg.fr. Merci à tous.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Protégez-vous.
C'était Manipulation et orientation de l'information chez les mineurs, une émission spéciale avec les premières et terminales du lycée Curie de Strasbourg, à retrouver en podcast sur radiojudaicastrasbourg.fr.